Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Je suis Céline Guerrero, enseignante et formatrice Montessori. Chaque semaine, je vous livre des outils concrets pour votre classe pour que vous puissiez contribuer au plein épanouissement de vos élèves et à votre plein épanouissement. Dans ce podcast, vous allez plonger au cœur de la pédagogie Montessori et de la neuroéducation et trouver des outils pour votre classe. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés avec vos amis ou collègues. Et depuis peu, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5€ par mois. Le lien est dans les notes de chaque épisode. On se retrouve aujourd'hui dans le 121e épisode pour parler de choix et de sentiment de contrôle. Donc pensez bien à la fin de l'épisode à faire le 3-2-1 pour en profiter au maximum. Je vous redirai ce que c'est. Et bien sûr, vous pouvez le partager dans les commentaires si vous voulez. Depuis la semaine dernière et même la semaine d'avant, je suis en train de vous parler des principes de l'éducation Montessori en m'appuyant sur le livre d'Angeline Stoll-Lillard, Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé du mouvement, de l'impact du mouvement sur l'apprentissage, et on continue cette semaine avec le choix et le sentiment de contrôle. Donc dit autrement, le fait que l'apprentissage et le bien-être sont optimisés lorsque les personnes ont le sentiment de contrôler leur vie. Alors, je vais commencer par une citation de Maria Montessori, parce qu'en fait, tout est dit dans cette citation. Ces enfants sont libres de faire des choix tout au long de la journée. La vie est faite de choix. C'est pourquoi ils apprennent à prendre leurs propres décisions. Ils doivent décider et choisir pour eux-mêmes tout le temps. Ils ne peuvent pas apprendre en obéissant au commandement d'un autre. Je l'adore cette citation. Et ce que j'apprécie le plus, la phrase qui retient le plus mon attention, c'est « la vie est faite de choix ». Et je crois bien que s'il y a une seule chose à retenir de cet épisode, c'est celle-là. La vie est faite de choix. Prenez le temps d'analyser tout ce que vous avez vécu là, depuis le moment où vous vous êtes levé et le moment où vous écoutez cet épisode. Combien de choix vous avez dû faire? J'imagine que vous avez dû choisir déjà à quelle heure vous alliez vous réveiller. Vous avez dû choisir quels habits vous alliez porter aujourd'hui, ce que vous alliez manger au petit déjeuner, quel manteau vous alliez mettre au moment de sortir. Votre trajet, peut-être que vous avez, y a deux trajets possibles et vous avez dû faire un choix entre celui que vous alliez prendre ce matin. Arrivé en classe, vous avez dû, si vous travaillez de manière traditionnelle, vous avez dû choisir en fait si vous alliez mener votre séance comme prévu ou si vous alliez l'adapter un peu en fonction de la réaction des enfants. Si vous travaillez en Montessori, vous avez, j'imagine, dû faire le choix entre est-ce que je continue d'observer cet enfant ou est-ce que j'interviens. Donc vous voyez en fait, la vie elle est faite de choix. On passe nos journées à faire des choix. Et je me rappelle c'était il y a longtemps, mais j'avais lu un livre de Philippe Mérieux. J'ai plus son livre sous les yeux, hein, mais il y avait un paragraphe qui m'avait vraiment marqué. Et il disait, pendant la scolarité des enfants, on ne les laisse pas choisir entre l'exercice 1 ou l'exercice 2. Et après, quelques années plus tard, on leur demande de faire un choix professionnel pour s'orienter, pour savoir quel métier ils vont faire. Mais c'est embêtant, j'ai plus ce livre sous les yeux, mais ça m'avait vraiment marqué, parce que du coup je ne peux pas vous lire la citation. Mais ce qu'il faut retenir de ce passage, c'était que si on ne laisse pas le choix aux enfants quand ils sont petits et jeunes, c'est impossible après pour eux de faire un choix au niveau professionnel et de faire des bons choix dans leur vie. Parce qu'en fait, faire des choix, ça s'apprend. Donc, quand on travaille de manière traditionnelle, on ne laisse pas le choix à nos élèves du déroulement de la journée, de l'emploi du temps. Ils ne choisissent pas à quel moment ils vont faire sport, à quel moment ils vont faire du français. Quand ils font du français ou des maths, ils ne choisissent pas combien de temps ils vont y passer, avec qui ils vont travailler, à quel endroit de la classe ils vont travailler, ni quand prendre une pause. En fait, on contrôle tout. On contrôle même le temps qu'ils passent en dehors de l'école, comme si le contrôle à l'école ne suffisait pas. On contrôle même leur temps en dehors de l'école, à la maison, en leur donnant des devoirs. Donc, vous voyez bien que dans ces conditions-là, les enfants ne peuvent pas apprendre à faire des choix. Et Angeline Stoll-Lillard, elle suppose que le niveau élevé de contrôle imposé par l'extérieur dans les classes conventionnelles, c'est peut-être une conséquence naturelle du modèle de l'usine. Parce que pour qu'une usine fonctionne efficacement, les matières premières, Elles doivent être acheminées sur la chaîne de montage sans tenir compte des différences individuelles entre les matériaux du même type. Les travailleurs d'usine y sont aussi traités de la même façon, sans tenir compte des choix personnels ou des centres d'intérêt de chacun. Parce que la chaîne de montage, elle risquerait de tomber en panne si tout le monde arrivait le matin en choisissant le travail qu'il aime faire. Donc ce modèle de l'usine, ça s'appuie sur le modèle de l'enfant selon Locke. Voilà. Bon, on est d'accord que ce système, il est complètement obsolète. Le monde change à toute vitesse, il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent, donc être capable de s'adapter, être capable de faire des choix, pour moi c'est vraiment une compétence qu'il est urgent de développer, enfin une compétence indispensable, mais ça s'apprend. Et dans la pédagogie Montessori, j'ai l'impression, vous me direz hein, si je me trompe, mais je vais vous parler du 3-6 très rapidement, du 6-12 et du 12-15, pour vous montrer la progression. J'ai l'impression qu'en 3-6, les enfants apprennent à choisir leur activité dans l'environnement de la classe. Ils vont choisir la durée de l'activité, avec qui ils travaillent. C'est déjà beaucoup hein, pour des petits de cet âge-là. Mais voilà, ils ont tous ces choix qui sont possibles. En 6-12, j'ai l'impression qu'on va au-delà en leur offrant l'opportunité de sortir de la classe aussi. Un enfant qui est passionné de mode, il va pouvoir aller observer un styliste. Si les enfants s'intéressent à la boulangerie, au métier de vétérinaire, enfin peu importe leurs intérêts et leurs intérêts, les enfants en fait qui manifestent un intérêt pour un sujet particulier, ils vont pouvoir organiser leur sortie. Et on ne va pas imposer à toute la classe d'aller observer le travail d'un styliste, parce qu'il n'y a que un enfant ou quelques enfants qui sont intéressés par ça. Donc, les enfants qui ont envie de contacter un styliste, ils vont devoir le trouver, le contacter, prévoir le trajet pour y aller. Donc, imaginez tous les choix qu'ils vont faire. Ils vont demander à un parent de les accompagner. Ils vont noter les questions qu'ils aimeraient poser. Après la visite, ils vont aussi écrire une lettre de remerciement. Enfin, vous imaginez tout ce qu'ils vont apprendre dans ce processus et tous les choix qu'ils vont devoir faire. Donc voilà, je pense que vous imaginez la richesse d'un projet comme celui-là. En 12-15, ils vont avoir l'opportunité de s'impliquer dans un projet, mais pas juste prendre des infos pour eux, se renseigner, pour participer en fait à la société. Donc un exemple courant, c'était par exemple de cultiver des légumes et d'aller les vendre au marché. Bon, ça c'est un exemple, classique de l'époque, même si c'est toujours possible aujourd'hui. Mais j'imagine que maintenant les projets ils sont plus variés en fonction de l'intérêt des jeunes et que si un jeune aime coudre, par exemple, reprenons l'exemple de la mode, il va pouvoir se lancer le projet, de coudre un habit et de vendre sa création. Voilà. Et il va pouvoir découvrir vraiment la vraie vie, quoi, comment ça se passe dans la société. Je vais vous partager l'exemple de ma fille qui est en 6e, qui a 12 ans et demi. Elle a envie d'être vétérinaire. Elle n'est pas dans une école Montessori où elle peut vivre ses expériences de cette manière-là. Mais quand même, comme on a la chance de connaître un vétérinaire, je l'ai encouragée à aller observer, en fait, tout simement, pour voir ce que c'est, pour voir à quoi ressemble ce métier, qu'est-ce que ce vétérinaire vit dans son quotidien. Et donc cet été, elle a pu faire un stage de plusieurs jours. Et c'était une expérience professionnelle formidable. Pourquoi attendre 14 ans ? En France, pour avoir une convention de stage, il faut que l'enfant ait 14 ans. Mais c'est fou. Pourquoi à 12 ans, s'il est intéressé par un métier et s'il dit « moi, je veux être vétérinaire », il faut lui permettre d'aller observer un vétérinaire et de se confronter à la vraie vie. Donc voilà pour les 12-15. Donc vous voyez cette progression entre le 3-6, le 6-12, le 12-15. Je voulais vous montrer cette progression dans le choix et le sentiment de contrôle que l'enfant, le jeune, va développer au fur et à mesure. Mais revenons aux classes Montessori 3-6. Donc, dans l'éducation Montessori, les enfants choisissent librement leurs activités. Ils arrivent le matin, ils observent la classe et ils décident ce qu'ils vont faire. Ils peuvent travailler sur la même activité autant qu'ils le souhaitent. Puis, ensuite, ils sont libres de ranger quand ils le souhaitent et de choisir un autre matériel. Donc tout au long de la journée, c'est comme ça en fait. Ils vont faire des choix, mais des choix constructifs. Les adultes limitent le choix des enfants que par trois choses. Il faut que le matériel lui ait déjà été présenté. Il faut que le matériel soit disponible, hein, puisqu'il est, le matériel est en un seul exemplaire. Donc si, voilà, si le matériel n'est pas disponible, c'est pas possible. Et il faut que l'activité soit constructive. Donc en fait, c'est que par ces trois choses-là que les adultes vont limiter le choix des enfants. Si vous travaillez encore en fonctionnement traditionnel et que vous dites « Ah mais oui, enfin là, voilà, vous venez de prendre conscience de l'importance de laisser les enfants faire des choix », n'oubliez pas que faire des choix, ça s'apprend. Et on ne peut pas passer de rien à tout. C'est très déstabilisant. Et je l'ai vécu pour la première fois, en tout cas de manière aussi forte pour la première fois, avec une petite fille qui vient aux ateliers depuis septembre, qui vient les mercredis. Donc une enfant de grande section, une petite fille qui rentre dans le cadre, voilà, qui ne veut surtout pas dépasser du cadre, qui obéit, on peut le dire comme ça, qui obéit aux adultes, qui ne s'autorise pas à prendre des décisions, à faire des choix, qui veut vraiment faire plaisir à l'adulte et surtout pas sortir du cadre. Et bien en fait, cette petite, elle a été très déstabilisée les premières semaines, et je m'en suis tout de suite rendu compte, hein, j'ai tout de suite réajusté, mais faire un choix pour elle, mais c'était trop déstabilisant, elle se sentait mal, je voyais vraiment qu'elle était en train de perdre sa joie de vivre et que c'était trop dur pour elle. Donc dans ce cas-là, on ne va pas passer de rien à tout. On peut proposer à l'enfant de choisir entre deux options. On lui propose deux options. Et voilà. Et alors si on lui en propose deux et qu'il en choisit une troisième, c'est pas grave, évidemment. Hein. Mais voilà, il faut lui proposer deux options ou trois. On ne peut pas lui laisser cette liberté de choix comme ça du jour au lendemain. Dans ma formation Impact, il y a toute une partie sur construire l'autonomie de la crèche au lycée. Et un dossier aussi sur la liberté et la discipline, deux concepts qui vont de pair. Il y a aussi tout un dossier sur la motivation, parce qu'en fait, tout est lié. On ne peut pas prendre juste un petit élément, comme ça, hop, libre choix, et le mettre en place dans sa classe. Enfin, on peut, mais en fait, l'idéal, c'est d'avoir cette vision globale. Et c'est vraiment ce que la formation Impact, elle peut vous apporter. Cette vision globale, et après, le soutien, l'expérience de vos collègues, pour justement passer à l'action, mais sans se mettre en difficulté et sans mettre en difficulté les enfants. Donc tous ces sujets fondamentaux, ils sont abordés dans la formation Impact. Je referme la parenthèse. Parlons à présent des recherches en psychologie. La recherche en psychologie, elle montre clairement que le fait de contrôler ou de restreindre la liberté de choix n'est pas optimal pour l'apprentissage ni le bien-être. On sait, ça a été prouvé, les personnes elles ont un besoin fondamental d'autonomie. Et quand les personnes, c'est les adultes et les enfants, pas que les enfants. Et lorsque les personnes elles sont en mesure de faire des choix, elles ont tendance à se sentir mieux et à être plus performantes. Donc je vais vous décrire deux, trois études issues du livre d'Angeline Stoll-Hillard. Et la première, c'est les effets bénéfiques sur les performances. Donc en fait, ils ont fait une étude sur l'effet du choix sur la performance. Donc il y avait deux groupes d'adultes, et les adultes, ils avaient deux tâches à accomplir dans une pièce où une alarme résonnait bruyamment. Soit ils devaient faire des pulses tangrammes, avec des tangrammes, soit ils devaient relire un texte. Et la moitié des personnes, elles avaient été informées qu'elles pouvaient mettre fin au bruit à tout moment, avec un interrupteur, mais elles avaient été dissuadées de le faire. Et du coup, il n'y en a pas beaucoup qui l'avaient fait. Tandis que les autres adultes, ils avaient simplement été soumis au bruit, mais sans avoir le choix de le contrôler. Et les personnes qui savaient qu'elles pouvaient contrôler le bruit, même si finalement elles n'avaient pas appuyé sur l'interrupteur, elles ont relevé beaucoup plus d'erreurs dans le texte à relire, et elles ont montré beaucoup plus de persévérance à essayer de résoudre les énigmes du tangramme. Bien que les deux groupes aient travaillé dans les mêmes conditions sonores, le groupe qui savait qu'il pouvait contrôler le bruit était plus performant sur les tâches qu'on leur avait demandées, des tâches qui nécessitaient de l'attention et de la persévérance. Une autre étude a montré que le choix affecte la mémoire. Donc, il donnait des paires de mots à mémoriser à des adultes, hein, toujours des adultes. La moitié des participants avaient été autorisés à choisir les mots à parier, alors que l'autre moitié des participants, pour l'autre moitié, les paires, elles avaient été attribuées. Donc, les participants qui avaient au préalable choisi des paires de mots faisaient preuve d'une meilleure mémoire que des participants qui n'avaient pas pu choisir. Une autre étude a été faite cette fois-ci avec des enfants entre 7 et 9 ans pour résoudre des anagrammes. Vous savez, c'est quand on permute les lettres, pour, les lettres d'un mot pour former un nouveau mot. Donc, un premier groupe était autorisé à choisir parmi 6 catégories d'anagrammes, des noms d'animaux, d'aliments, nanana. Et un deuxième groupe avait été informé que c'était l'expérimentateur qui avait choisi les catégories. Et un troisième groupe, que c'était leur mère qui avait fait le choix pour eux. Et en fait, les catégories, elles étaient toutes les mêmes hein, pour que les voilà pour qu'il n'y ait pas des choses plus difficiles que d'autres à résoudre. Et ils en ont tiré, c'est les chercheurs en ont tiré deux conclusions importantes. Donc, les enfants qui avaient pu choisir leur catégorie ont résolu plus de 2 fois plus d'anagrammes que ceux qui savaient que c'était leur mère ou l'expérimentateur qui avait choisi pour eux. Et après, l'étude, elle s'est pas terminée comme ça. Après l'activité des anagrammes, il y a eu une séquence de jeux libres qui a été proposée aux enfants. Et ceux qui avaient choisi leur propre catégorie ont passé beaucoup plus de temps à choisir librement de résoudre d'autres anagrammes que ceux dont la catégorie avait été choisie pour eux. Donc en fait, cette étude, elle montre que le libre choix, il permet un meilleur niveau de performance initiale, ainsi qu'une meilleure persévérance des enfants dans l'activité. Et on sait très bien que le fait de persévérer, ben, plus on persévère, plus on progresse en fait. C'est logique en fait. Plus on s'entraîne sur quelque chose, mieux on y arrive. Donc voilà ce que ces études ont montré. Alors, Angeline Solillard, elle décrit d'autres études dans son livre Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science. Et elle montre qu'en plus d'améliorer la performance, l'intérêt et la persévérance, ce qui est déjà énorme, elle a démontré que le fait de donner le choix avait un impact positif sur la créativité des enfants. Voilà. Y a d'autres études aussi qui ont montré que le degré de contrôle que les enfants perçoivent en classe, le fait d'avoir l'impression, pas que l'impression, quoi, le fait qu'ils puissent contrôler plus de choses, qu'ils aient plus de choix, ça a une influence sur leurs apprentissages et leur bien-être. Donc, y a une étude qui a montré la façon dont, lorsque les enseignants d'enfants âgés de 9 à 12 ans leur offraient plus d'autonomie, les enfants étaient plus intrinsèquement motivés à apprendre, ils se considéraient comme plus compétents et ils exprimaient un plus grand sentiment d'estime d'eux-mêmes. Enfin, vous vous rendez compte, en fait, toutes les conséquences que ce libre choix il peut avoir. Donc, je ne vais pas vous détailler toutes les études, hein, vous pouvez les retrouver dans le livre, ça serait un peu trop lourd là sur un format de podcast. Et il y a eu aussi une étude qui a montré que les élèves qui peuvent maîtriser leur environnement, ils sont moins agressifs. Voilà, donc ça a vraiment plein de conséquences. Donc, la perception qu'ont les enfants de leur capacité à maîtriser leur environnement en classe et à être libres de faire des choix ont plusieurs répercussions significatives sur donc des variables en lien avec le bien-être et la performance scolaire. Donc, pour tout ce que j'ai dit, c'est les compétences techniques, la performance, le sens de l'effort, le manque d'agressivité et leur créativité. Donc, il y a vraiment beaucoup de conséquences. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez comment Maria Montessori en est venue à proposer le libre choix des activités ? Elle ne s'est pas réveillée un matin en se disant « Ah bah tiens, maintenant, je vais disposer le matériel sur des étagères. » Je vais vous lire une citation qui vous apportera la réponse si vous avez oublié ou si vous ne savez pas. Un matin, la maîtresse arriva en retard à l'école. La veille, elle avait oublié de fermer l'armoire à clé. Elle trouva le meuble ouvert et de nombreux enfants rassemblés devant. Certains d'entre eux prenaient des objets et les emportaient. Selon moi, les enfants connaissaient assez bien les objets pour pouvoir les choisir tout seuls. Et c'est en effet ce qu'ils firent à partir de ce moment-là. Une recrudescence d'activités intéressantes et vives s'installa en conséquence. Les enfants témoignaient d'intérêts particuliers et choisissaient leurs occupations. C'est pour cette raison qu'on agença une armoire basse et élégante qui parut mieux adaptée, où le matériel, tout en étant rangé, était mieux disposé et accessible aux enfants qui le choisissaient selon leurs désirs. Et c'est ainsi que le principe du libre choix apparut. C'est grâce au libre choix qu'ont pu être faites toutes les observations sur les tendances et les besoins psychiques des enfants. Une des premières conséquences intéressantes fut de voir que les enfants ne choisissaient pas tout le matériel scientifique que j'avais fait préparer, mais seulement quelques-uns des objets qui le composaient. Ils prenaient tous plus ou moins les mêmes choses, et certaines d'entre elles avec une préférence évidente. En revanche, certains objets restaient abandonnés et se couvraient de poussière. Je les leur présentais tous, et la maîtresse, qui en expliquait l'usage, les leur proposait tous. Mais les enfants ne les reprenaient pas spontanément. Je compris alors que dans l'environnement de l'enfant, tout doit être à sa mesure, en plus d'être ordonné, et que l'élimination des confusions et de ce qui est superflu engendre précisément l'intérêt et la concentration. Maria Montessori, elle avait la conviction que pour qu'un enfant puisse faire des choix productifs, il fallait préparer son environnement, et que cet environnement, il doit être spécialement conçu pour stimuler l'activité constructive des enfants. Tiens, d'ailleurs, en notant cette phrase-là, parce que quand j'enregistre l'épisode, j'ai des notes sous les yeux, hein, j'ai travaillé 1h45 là avant de pouvoir enregistrer, hein, j'ai quand même pas tout ça en tête, ça me demanderait une grosse récupération en mémoire, ça serait compliqué quand même, et du coup quand j'ai préparé cet épisode, il y a une question là qui a fait tilt par rapport à ça justement, stimuler l'activité constructrice des enfants, et donc du coup j'ai eu l'idée d'ajouter cette question pour les apprenants de la formation Impact. Parce que là, on a commencé la semaine dernière à travailler sur l'environnement préparé. Et donc, vous voyez, en préparant, je fais toujours des liens entre le podcast, la formation. Et j'ai eu l'idée de rajouter cette question-là pour leur demander si quand ils ont préparé leur classe, ils avaient cet objectif en tête, en fait, de concevoir un environnement qui va stimuler l'activité constructive des enfants. Mais c'est une question que vous pouvez vous poser aussi. Donc le fait d'apprendre à faire de bons choix pour soi-même fait partie intégrante de l'éducation Montessori. Je pense que là vous l'avez compris. Mais il y a quand même quelque chose que je voudrais préciser, parce que il y a des gens qui déforment les propos de Maria Montessori et qui pensent que les enfants font ce qu'ils veulent. Mais non, les enfants ne font pas ce qu'ils veulent. Ils veulent ce qu'ils font. Et Maria Montessori, elle pensait que les enfants doivent avoir la liberté de faire des choix constructifs. Mais cette liberté, elle va de pair avec la responsabilité. Parce que la liberté, elle ne peut pas être accordée aux enfants qui n'assument pas la responsabilité de cette liberté. Enfin bref, il y a encore plein de choses à dire, hein, mais je vais quand même m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite à faire le 3-2-1 pour vraiment que cet épisode ne s'évanouisse pas, voilà, ne disparaisse pas de votre mémoire dans les semaines à venir. Donc le 3-2-1, c'est noter, je vous invite à noter 3 choses que vous avez découvertes ou redécouvertes, 2 choses pour lesquelles vous aimeriez poursuivre vos recherches et une chose qui aura déjà là tout de suite un impact dans votre classe. Je vais terminer avec les mots de Maria Montessori. En laissant les enfants en liberté dans nos écoles, nous avons pu, avec une grande clairvoyance, les suivre dans leur méthode naturelle d'autodéveloppement spontané. La liberté dans le travail intellectuel est considérée comme le fondement de la discipline intérieure. Alors, voilà, j'ai terminé cet épisode sur choix et sentiment de contrôle. Voilà, j'espère vraiment que ça vous apporte, voilà, ça vous apporte des choses. Je pense que oui, enfin, en tout cas, à une personne, hein, j'ai Marine, une maman qui s'était formée avec moi en 2019, je crois. Elle poursuit son chemin en faisant cette fois-ci la formation d'éducateur Montessori en Suisse, je crois. Et elle m'a dit que les épisodes de podcast, là, les derniers épisodes, lui permettaient de compléter tous les écrits qu'elle devait rendre pour la formation. Donc voilà, je me dis que, Marine, si tu nous écoutes, au moins à toi, ça te sert. Mais j'espère que, voilà, vous êtes nombreux à profiter des épisodes. N'hésitez pas à m'apporter votre feedback, parce que là, je suis partie pour plusieurs semaines, peut-être pas tous les vendredis, mais en tout cas, je vais traiter les neuf piliers là, de l'éducation Montessori un par un. Donc voilà, n'hésitez pas à m'apporter votre feedback, ça fait toujours plaisir aussi, voilà, vos encouragements font toujours plaisir. Une petite info avant de terminer complètement l'épisode, en octobre, j'avais fait un webinaire sur l'esprit absorbant. Vous étiez 175 à vous inscrire, 62 à participer. Alors 62 c'était super, mais vous notez quand même que ça fait un gros écart entre le nombre d'inscriptions et le nombre de participants réels. Et du coup, pour le prochain webinaire là, que j'ai envie de faire en décembre, j'ai envie de changer un petit peu mon organisation. Je ne vais pas... Je vais limiter le nombre de places. Parce que... Pas que par rapport à l'écart entre le nombre d'inscriptions et le nombre de participants réels. Parce qu'en fait, j'ai remarqué sur Zoom, quand vous êtes nombreux, déjà, il y a très peu de personnes qui allument leur caméra. Heureusement, il y en avait quand même quelques-uns. Et vous n'osez pas non plus allumer votre micro pour pouvoir interagir. Parce que voilà, le nombre fait que, je sais pas, on n'ose pas. Donc moi, je préfère travailler, échanger avec des petits groupes. Parce que mon but, c'est pas de parler pendant trois quarts d'heure et de ne pas... Enfin, interagir avec vous, c'est trop important. Donc pendant le webinaire, j'avais essayé de vous engager, de vous faire... de faire en sorte que vous soyez engagé en vous posant des questions, même si vous ne partagiez pas vos réponses, si c'était juste pour vous. Mais là, j'ai vraiment envie de quelque chose de plus interactif où on va pouvoir vraiment échanger. Ce que je vais faire, c'est que je vais limiter le nombre de places à 20 personnes. Parce que je me dis 20, on verra, hein, peut-être que pour le prochain, le suivant encore, je dirais que 20 c'est un petit peu trop et ça sera que 10. Mais pour le mois de décembre, on va essayer avec 20 personnes seulement. Et du coup, je vous demanderai vraiment, si vous vous inscrivez, je vous demanderai de participer pour ne pas prendre la place d'autres personnes qui auraient envie de venir. Et j'aimerais que vous allumiez votre caméra et votre micro pour vraiment qu'on puisse travailler ensemble, se voir, s'entendre, se parler, échanger. Et il n'y aura pas de replay. Comme ça, il n'y a pas de... Si c'est l'enregistrement qui vous embête après le fait que je partage la vidéo sur YouTube, il n'y aura pas de replay pour cette fois-ci. Voilà, il faut... Si vous voulez en profiter, vous venez au mois de décembre. Donc je vais quand même mettre deux dates, parce que j'ai conscience qu'on ne peut pas être tous disponibles au même moment. Donc ça sera le vendredi 9 décembre à 20h, ou le samedi 10 décembre à 10h. Je vous en reparlerai, c'est dans 2 mois, je suis en train de préparer le sujet, parce que j'hésite un peu au niveau du sujet. Vous pouvez me donner votre avis, mais moi j'aurais envie de partir sur les deux sujets que j'ai abordés cette semaine et la semaine dernière, donc l'impact du mouvement sur l'apprentissage, ou le choix et le sentiment de contrôle. Bon, après, vu que je vais enregistrer d'autres épisodes de podcast d'ici le mois de décembre, en gros, on aura peut-être le choix entre les neuf piliers de l'éducation Montessori. N'hésitez pas à me dire vraiment le sujet qui vous intéresse. Et on pourra faire un choix. On pourra faire un choix ensemble. Je compte sur vous pour m'apporter votre feedback et c'est toujours utile en fait. Et je compte sur vous aussi pour soutenir mon travail en vous abonnant au podcast pour 5 euros par mois. Je vous dis à la semaine prochaine.